Vous écoutez Radio France Internationale, il est 1h ici à Paris, minuit en temps universel.
Gali Bonin.
Et l'actualité ce soir, c'est d'abord ces frappes israéliennes au sud de Beyrouth. L'État hébreu dit riposter à des tirs de roquettes en visite à Paris. Le président libanais ne pense pas que le Hezbollah est à l'origine de ces projectiles. En Guinée, l'ancien dirigeant Dadis Camara est gracié pour raison de santé. Il avait été condamné à 20 ans de prison pour un massacre qui a eu lieu en 2009. La situation humanitaire est grave en Birmanie après le séisme monstre survenu vendredi. Situation d'autant plus difficile dans un pays déchiré par une guerre civile, comme nous l'expliquera un spécialiste. Condamné en première instance, l'ex-star du Barça, Dani Alves, est finalement acquitté. Il avait été reconnu coupable de viol sur une jeune femme en 2021. Et les émissions de CO2 baissent en France, mais pas assez vite. Une association espère un électrochoc afin de réveiller les dirigeants sur l'urgence climatique. Le président libanais était en visite officielle en France lors de la frappe israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth. Alors c'est depuis l'Élysée, vendredi matin, que Joseph Aoun a réagi à cette violation du cessez-le-feu. Israël affirme riposter à des tirs de roquettes depuis le Liban, mais le président libanais reste prudent quant à la responsabilité du Hezbollah. Pierre-Olivier.
C'est depuis Paris que Joseph Aoun réagit à ce premier bombardement d'ampleur dans le sud de Beyrouth depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël fin novembre.
Malheureusement, nous venons de recevoir des nouvelles concernant le sud et Beyrouth, ainsi que le retour de l'escalade et des tensions et la reprise des agressions israéliennes contre notre pays. Nous rejetons toute attaque contre le Liban ou toute tentative suspecte et malveillante visant à replonger le Liban dans le cycle de la violence. Et plus encore, cela renforce notre détermination à bâtir notre pays afin de protéger le Liban et l'ensemble de son peuple.
L'armée israélienne, de son côté, affirme avoir répondu à des tirs de roquettes en provenance du Liban, les deuxièmes en une semaine. Mais pour le président Joseph Aoun, il ne s'agit pas de tirs réalisés par le Hezbollah.
Concernant le lancement de roquettes la semaine dernière, l'armée libanaise est en train de mener son enquête pour savoir qui les a lancées. Une autre enquête va être ouverte aujourd'hui, mais notre précédente expérience et les preuves sur le terrain indiquent que le Hezbollah n'en est pas responsable.
De son côté, Emmanuel Macron a dénoncé des frappes israéliennes inacceptables. Il s'entretiendra de ce sujet avec son homologue américain et le Premier ministre israélien.
De son côté, Benjamin Netanyahou assure qu'Israël est prêt à frapper partout au Liban contre toute menace. Dans un décret lu à la télévision guinéenne vendredi soir, le général Mamadi Doumbouya a accordé une grâce présidentielle à Moussa Dadis Camara. L'ancien dirigeant guinéen de 2008 à 2010 avait été condamné le 31 juillet dernier pour crimes contre l'humanité, notamment pour sa responsabilité dans les exactions de 2009 au grand stade de Conakry. Au moins 156 personnes avaient été tuées et des centaines d'autres blessées dans la répression d'un rassemblement de l'opposition, selon un rapport d'enquête mandaté par l'ONU. En Asie, un puissant séisme a frappé la Birmanie avec de fortes secousses ressenties jusqu'en Thaïlande et en Chine. Le bilan officiel s'élève à plus de 140 morts et plusieurs centaines de blessés en Birmanie, un pays qui est déchiré par une guerre civile depuis le putsch militaire de 2021, dans les hôpitaux en partie détruits de Mandalay, proche de l'épicentre du tremblement de terre. Des patients affluent et manquent de soins dans un pays où les services de santé sont structurellement insuffisant. Au micro d'Anne Cantner à RFI Midi, les explications de Frédéric Debomi, ancien président de l'association Info Birmanie.
On le sait bien, en fait, quand des phénomènes naturels comme un séisme se produisent, ce qui est important, c'est la solidité des infrastructures du pays. En Birmanie, il y a une insuffisance des services de santé, il y a une faiblesse générale des infrastructures qui rend les populations, évidemment, plus vulnérables encore à ce qu'il vient de se passer. On a une situation humanitaire, de toute façon, qui est dégradée. On a une majorité de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, et avec les coupures décidées par le président des États-Unis, Trump, récemment, le programme alimentaire humanitaire mondial n'est plus en capacité d'aider autant qu'il le faudrait des gens qui ont des problèmes d'accès à la nourriture, quoi. Donc on est dans une situation déjà très dégradée, le séisme s'y rajoute et un dirigeant de l'armée en perte de vitesse va essayer de capitaliser là-dessus pour se montrer responsable. Mais voilà, c'est quand même un contexte d'ensemble qui n'est pas très sain.
Frédéric Debomi, ancien président de l'association Info Birmanie. Un journaliste suédois a été arrêté lors de son arrivée en Turquie jeudi. Envoyé couvrir les manifestations monstres qui secouent le pays, il aurait été emmené pour être interrogé, rapporte son média. Le rédacteur en chef dénonce une attaque directe à la liberté de presse. Depuis l'arrestation du maire d'opposition d'Istanbul le 19 mars, la Turquie connaît une vague de manifestations. Plus de 2000 personnes ont été arrêtées, dont plusieurs journalistes. Un reporter de la BBC venu couvrir les événements a également été expulsé jeudi. L'ONU annonce une chute de 40% de ses financements pour l'aide alimentaire. Réunis au sommet contre la malnutrition, organisé jeudi et vendredi à Paris, pays et donateurs privés se sont engagés à donner près de 28 milliards sur 4 ans. Mais ce n'est pas assez malheureusement pour pallier aux coupes américaines. Washington, jusqu'alors premier contributeur, a annoncé réduire jusqu'à 90% de son budget alloué à l'aide internationale. Un séisme économique pour le monde associatif et les ONG. Et la tension continue de monter en Amérique du Nord entre Ottawa et Washington après l'annonce américaine de nouveaux droits de douane sur toutes les voitures. Durant un appel téléphonique, le nouveau premier ministre canadien aurait averti Donald Trump que des mesures de représailles seront imposées dès le 2 avril. En pleine campagne électorale, Mark Carney a déclaré jeudi que le temps de la coopération étroite avec les États-Unis était terminé. Le voisin américain n'est plus un partenaire fiable, a expliqué l'ancien banquier central du Canada. En Espagne, c'est une décision de justice qui était très attendue dans le monde du foot. Le joueur brésilien Dani Alves a finalement été acquitté en appel. Il avait été condamné en première instance pour le viol d'une jeune femme dans une boîte de nuit de Barcelone en décembre 2022. Le compte-rendu de notre correspondante sur place, Élise Gazangel.
À la surprise générale, c'est un acquittement à l'unanimité qui a été prononcé ce vendredi par le tribunal supérieur de justice de Catalogne. Il y a un an, Dani Alves, ex-footballeur brésilien, avait pourtant été condamné à 4 ans et demi de prison pour avoir violé une jeune femme dans les toilettes d'une discothèque de Barcelone. Mais les 4 juges de la cour d'appel ont révoqué cette condamnation, estimant que le témoignage de la plaignante présente, je cite, des failles, imprécisions et contradictions. Par conséquent, le doute persiste et doit profiter à l'accusé. Ce verdict a provoqué l'indignation des collectifs féministes ici. La ministre du Travail, Yolanda Díaz, a elle exprimé son total soutien à la victime et son inquiétude quant à la revictimisation de la plaignante qui, selon elle, doit souffrir énormément. De son côté, émue, l'avocate du sportif a exprimé sa joie et celle de son client. Cette décision n'est toutefois pas définitive. Le parquet et la partie civile étudient un possible recours. Élise Gazangel, Barcelone, RFI.
En France, la baisse des émissions de gaz à effet de serre s'est poursuivie en 2024, mais ralentit fortement, rapporte l'organisme chargé de dresser le bilan carbone du pays. Un décrochage qui inquiète les associations écologistes. Anne Bringot est directrice de programme au réseau Action Climat.
C'est un véritable signal d'alarme parce qu'effectivement, les émissions de gaz à effet de serre, elles ont baissé 3 fois moins vite en 2024 qu'en 2023. C'est un peu l'effet des reculs qu'il y a eu ces derniers temps sur les politiques de transition écologique. Et l'effet, malheureusement, il est immédiat. Nous, on attend vraiment que ces chiffres soient un véritable électrochoc et que le gouvernement annonce des mesures pour retrouver une bonne trajectoire de baisse des émissions, notamment dans les secteurs des transports et de la rénovation des bâtiments, qui sont des secteurs où les émissions ne baissent pas assez et où la facture d'énergie des ménages est très élevée. Et donc, c'est important d'agir dans ces deux secteurs pour ces deux objectifs et également pour renforcer la souveraineté économique de la France. Je rappelle que ces énergies fossiles sont très majoritairement importées et dans un monde où les conflits deviennent de plus en plus fréquents, c'est important qu'on développe notre souveraineté économique et donc qu'on se libère de ces énergies fossiles.
L'analyse d'Anne Bringo du réseau Action Climat.